Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11, très bon réveil à tous. Enfin, très bon réveil. Je vous avoue que les nouvelles ne sont pas forcément excellentes. Inquiétude sur le front de l'emploi. Moins 6,5%. Les intentions d'embauche en 2026 sont en net recul. Et c'est France Travail qui le dit. Bonjour Eric Ayer. Vous êtes économiste. Bonjour. Pour l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et avec la crise au Moyen-Orient, ces perspectives déjà mauvaises d'embauche pour les entreprises vont empirer. Voilà votre parti pris ce matin. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises rechignent à embaucher ?
Alors, il y a deux éléments. Il faut voir d'abord l'élément un peu structurel, c'est-à-dire que même sans le conflit iranien, il y aurait eu des destructions d'emplois en 2026, comme il y en a eu en 2025. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, le marché du travail s'est très bien porté pendant la crise sanitaire et les années 2022-2023. Et donc, pourquoi ? Parce que, en gros, il y avait énormément d'aides de l'État, à la fois pour l'apprentissage, mais aussi pour les entreprises. Et donc, on a sauvé énormément d'entreprises qui auraient dû faire faillite normalement. C'est ce que Bercy appelle la zombification de l'économie. Et donc, on a sauvé de l'emploi en sauvant ces entreprises. Mais petit à petit, ça a creusé les déficits et les salariés également avaient un peu perdu en pouvoir d'achat. Et donc, petit à petit, les salariés réclament un rattrapage du pouvoir d'achat et puisque l'État est obligé de résorber son déficit, ben les aides s'arrêtent. Et donc, là, globalement, on était arrivé à un moment où la demande était relativement stagnante et les entreprises ont décidé de refaire de la productivité, c'est-à-dire globalement d'ajuster l'emploi à leur activité. Et donc, globalement, il y avait des destructions d'emplois qui étaient déjà à l'œuvre.
J'ai presque l'impression quand je vous écoute, et évidemment on va en venir à ce qui se surajoute à ça, qui est évidemment la guerre en Iran, mais ça veut dire, quand vous dites la zombification, ça veut dire qu'en fait c'était des entreprises qui n'avaient pas un rapport au réel, parce qu'elles étaient artificiellement maintenues en vie en quelque sorte, ou qu'elles avaient reçu des prêts de l'État, et là, se confrontant au réel, bah, elles sont obligées d'écrémer.
Oui, c'est ça. C'est les entreprises qui auraient dû faire. Vous voyez, en France, il y a à peu près 55 000 défaillances d'entreprises chaque année. Ça, c'est une année normale. Donc, une bonne année, généralement, bah, vous descendez à 45 000. Et puis, les mauvaises années, vous montez jusqu'à 60, 65 000 défaillances. Pendant les années 2020, 21, 22, 23, c'était des années relativement mauvaises. On est descendu à 20 000, 22 000 défaillances d'entreprises. Donc, vous voyez que on a sauvé beaucoup d'entreprises qui auraient dû faire défaillance s'il n'y avait pas eu la crise. Bah, ces entreprises-là, quand on les sauve, on sauve également l'emploi. Mais petit à petit, lorsqu'il faut qu'elles remboursent les prêts garantis par l'État et lorsqu'elles ne sont plus aidées, eh ben malheureusement, elles font des faillances. Mais allez, globalement, on leur a laissé 3 ans de vie supplémentaire.
Donc c'est une forme de rattrapage. C'est une forme de rattrapage.
Exactement.
La question, évidemment.
C'est une forme de rattrapage.
J'ai deux questions en particulier. L'une, évidemment, sur le contexte géopolitique qui se surajoute donc à ce moment, en quelque sorte, du choc du réel. Et puis la question, évidemment, des chiffres du chômage. Le chômage d'abord, est-ce que ça veut dire concrètement que ça va se traduire dans les chiffres du chômage qui vont mécaniquement augmenter ?
Oui, mais là aussi, c'est une tendance depuis 2023. C'est-à-dire que depuis 2023, le chômage augmente, alors pas rapidement, mais il augmente régulièrement, puisque globalement, on avait réussi à baisser le chômage jusqu'à 7,1. Puis là, petit à petit, ça réaugmente. Et ça devrait continuer. Et on devrait atteindre, à la fin de l'année, 8,3% de chômage. Donc, on revient pas au niveau qui était le sien dans les années 2012-2013. Mais, allez, petit à petit, le chômage repart à la hausse.
Et dans cette situation déjà de fragilité, l'arrivée de la guerre, quel peut en être ensuite l'impact ?
Alors, la guerre va bien entendu aggraver la situation par deux conséquences. D'abord, la première, c'est direct, c'est-à-dire c'est une augmentation des prix de l'énergie. Donc, lorsque les prix de l'énergie augmentent, eh bien, l'inflation revient. Et lorsque l'inflation revient, le pouvoir d'achat des ménages baisse. Et donc, les carnets de commandes, qui étaient déjà relativement faibles, eh bien, vont être encore un peu plus faibles. Et donc, ça va avoir une incidence sur la demande. Et le deuxième canal de transmission, c'est l'incertitude. Aujourd'hui, on est dans un monde très incertain et encore plus incertain vis-à-vis de ce qui peut se passer dans le détroit d'Ormuz. Et donc cette incertitude va se traduire par des intentions d'embauche qui vont être un peu moins dynamiques. Et donc là aussi, ça va aggraver la situation sur le marché du travail.
Merci pour ces mauvaises nouvelles. Cher Eric Heyer, merci quand même de nous avoir aidé évidemment à les comprendre davantage. Vous êtes le directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques.